Daniel Bourion est le conservateur à la bibliothèque universitaire d'Angers. Et il est en charge de la bibliothèque numérique de la bibliothèque universitaire d'Angers. Alors il a fait une chose très vilaine, il s'est allié avec Sony. Et il a utilisé le Sony Reader, il a récupéré 10 liseuses Sony pour les proposer aux étudiants après. Donc ça fait partie des choses que fait Angers, c'est-à-dire ils essayent d'explorer. Alors nous on n'est pas enthousiastes face aux liseuses, mais c'est bien qu'on ait des retours et peut-être qu'on pourra changer d'avis, peut-être qu'on saura comment faire pour aller dans un avenir proche vers des démarches. Il y aura des vrais usages en fait, parce que chez nous la liseuse elle cale une table. On a acheté une liseuse 400€ et elle cale la table, donc on va la revendre parce qu'elle ne sert à personne. Pourtant on est 25, donc on pourrait imaginer que ça serve au moins à une personne, non. Alors par contre on a acheté un iPod pour faire liseuse. L'iPod il marche, hein. Je veux dire, il tourne, il ne fait pas que lire des livres, mais il fait aussi de la lecture, parce que vous savez qu'on veut le iPod, l'iPhone c'est une famille en fait, et dedans il y a le iPod et c'est une liseuse pour nous. C'est la liseuse cible numéro 1 pour nous. Voilà, donc Daniel, la parole est à toi et on t'écoute pendant une petite heure sur la question de l'attente des utilisateurs dans les bibliothèques universitaires.
Bon, je vais essayer de ne pas déborder. En fait, j'ai trop de choses à dire. On va parler des livrets, on va parler de plein d'autres choses. L'idée et la commande, si vous ne m'entendez pas au fond, vous me le dites. Si je parle dans tous les sens, vous me le dites aussi. Et si je dépasse, quelqu'un me le dit. Donc l'idée c'est de vous dresser un peu un paysage de qu'est-ce que c'est qu'une BE aujourd'hui, comment c'est impacté par le numérique. Derrière c'est comment on travaille avec des étudiants, parce que finalement c'est des utilisateurs finaux, pour vous, pour nous qui sommes des intermédiaires. Donc l'idée c'est un peu tout ça, dresser un paysage, qu'est-ce que c'est qu'une BE, qu'est-ce que c'est un étudiant, comment ça travaille, comment on peut le toucher, le numérique. Si j'avais su qu'on me prendrait en photo, je serais passé chez le coiffeur, mais va falloir me prendre comme ça. Bon. Donc je suis effectivement, alors, on va tourner autour de ces thématiques-là. En fait, comme c'est vendredi, c'est une balade, on va y aller cool, hein, vous êtes fatigués. Non, pas encore, mais ça va pas tarder, donc on va y aller cool, et je vais essayer de pas me perdre. On va tourner autour de ces points-là. Le numérique, le public, le document, la bibliothèque. Tout ça à partir de l'exemple de la BU d'Angers, où je travaille. Ce que je vais dire, on va utiliser la BU d'Angers comme exemple. Alors la BU d'Angers, c'est une BU, un SCD plutôt, qui est rattaché à l'Université d'Angers. C'est une grande... Enfin, le ministère considère l'Université d'Angers comme une grande université pluridisciplinaire, ce qui veut dire, en gros, qu'on est une bibliothèque universitaire complètement moyenne. L'université est moyenne, elle n'a pas de pôle particulier. On traite tous les publics, on traite toutes les thématiques. Et au sein de cette université, le SCD, donc la BU, est composé de 3 sites physiques plus une section numérique que je pilote, et ça c'est important de s'en rendre compte. Une des particularités de la BU d'Angers, c'est que la partie numérique est considérée comme une section physique. D'accord. Comme on dit dans l'organigramme, il y a 2 parties physiques qui correspondent à des bâtiments et une 3e partie numérique que moi je pilote. C'est un cas assez rare de bibliothèque universitaire où le numérique n'est pas juste un truc de geek. On ne sait pas trop à quoi ça sert. C'est une vraie section, donc c'est-à-dire que politiquement, il y a un vrai choix. Et mon équipe à moi, donc les gens qui travaillent avec moi, tout le SCD, c'est 55 personnes. L'équipe qui travaille avec moi, c'est 3 personnes. Donc, nous sommes 4 en tout. Autant vous dire que les gens qui travaillent avec moi ont beaucoup de mérite, parce que c'est pas rigolo tous les jours. Une autre particularité de la BU d'Angers, c'est qu'elle est en train de faire une bascule vers l'électronique, qui illustre les chiffres que je vous projette. Les investissements qu'on peut faire au niveau documentaire, là je ne parle que de revues, d'accord, se sont complètement inversés. On est passé depuis 2004, donc les chiffres 2008, on a complètement inversé les proportions. Là où on achetait peu d'élec, beaucoup de papier, on parle de revues. Maintenant on achète beaucoup moins de revues, et je ne désespère pas qu'on en achète plus du tout, en papier, j'entends, et on achète beaucoup d'électronique. Et ça aussi, c'est un choix politique. On s'est dit, c'est l'outil électronique qui va être important pour nos étudiants. Donc, politiquement, il faut faire des choix, il faut faire des décisions. Et quand on hésite entre acheter une revue en papier et une revue électronique, 9 fois et demi sur 10, on achète la revue électronique. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Normalement, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que le papier a encore un avenir ? Je ne suis ni Sid Vicious ni Johnny Rotten. Enfin, en tout cas, j'espère pas finir comme Sid Vicious. Et si je suis Johnny Rotten, qui est Sid Vicious dans mon équipe ? Je ne sais pas. J'ai des noms en tête. Il y a des gens qui savent, qui connaissent un peu mon environnement. Voilà. C'est une des questions qui nous travaille. Est-ce que le papier n'a plus d'avenir ? Les gens qui me connaissent un peu pensent que je pense que le papier n'a plus d'avenir, mais en fait, je pense qu'il en a un quand même. Et souvent, on prête aux gens des choses. Et par exemple, l'intervention qu'il y a eu hier sur l'impression à la demande, c'est un exemple qui montre que c'est parfaitement compatible. Un des fils rouges qui traverse ce que je vais dire, c'est il faut qu'on arrête de réfléchir en termes de « où ». C'est pas « où le papier ». Ou l'électronique, ça peut être les deux en même temps. Et c'est vrai pour plein de choses. Alors, le matin quand je me lève, je me demande à qui je parle. Enfin là, je vois à qui je parle, mais... Quand vous travaillez en bibliothèque numérique, vous ne voyez pas par définition vos usagers. Donc qui c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'un étudiant à l'université d'Angers ? Voilà nos chiffres. Il y a 17 000 étudiants inscrits à l'université d'Angers. Je me réhydrate. Il y a 17 000 étudiants à peu près à l'université d'Angers, inscrits à l'université d'Angers. 12 000 sont inscrits à la BU. Ça veut dire déjà qu'on a perdu un paquet au passage. Et je trouve la répartition particulièrement intéressante. Je pense que trop souvent sur la doc ELEC, on se focalise sur les chercheurs et les enseignants-chercheurs, donc sur en fait une frange très très fine de notre lectorat et de notre public. Le gros de notre public, c'est quand même des étudiants de licence et de master, qui sont un peu loin de la recherche, en particulier les licences. La recherche, ça ne parle pas. Et or, on a un problème sur la doc ELEC, c'est qu'on a principalement de la doc ELEC de recherche. Donc moi, je pense souvent à ces disparus de la doc ELEC, qu'on oublie complètement et qui sont vraiment le gros de nos troupes. C'est une des choses qui ne m'empêche pas de dormir, mais j'essaye de penser à eux quand même, il ne faut pas les oublier. C'est un message pour les gens qui font des manuels scolaires, enfin des manuels scolaires ou universitaires qui sont dans la salle. Il nous faut de la doc ELEC de premier niveau. Voilà, c'était un appel à cri du cœur. Ce que je ne sais pas non plus, c'est où ils sont. Où ils sont les étudiants ? Parce qu'ils ne sont pas toujours dans la BU en fait. Tout bibliothécaire a en tête un âge d'or béni. C'est un peu le fantasme du bibliothécaire, ça c'est la salle de lecture de la bibliothèque du Congrès. J'aime beaucoup cette photo à cause du dispositif panoptique. Je trouve qu'il y a un côté carcéral assez hallucinant. Ce qui est intéressant, c'est que ça dit beaucoup de choses sur... C'est comme ça qu'on continue à penser les bibliothèques universitaires, en fait. J'ai l'impression très souvent, c'est... Des places assises, chaque lecteur a sa place, tout est bien sous contrôle, under control. On tient tout, tout va bien, on sait où ils sont, ils sont devant vous, la doc est là, donc ils ne peuvent être que là. Hein, c'est super, c'est rassurant en fait. Le problème c'est que ça ressemble plutôt à ça maintenant, une bibliothèque universitaire. Et j'aime beaucoup cette photo, essayez de vous en souvenir parce que après on va voir ce que ça veut dire aussi. Elle est intéressante parce qu'en fait il n'y a quasiment personne. Les gens qui sont là, la petite gamine qui est là, je pense qu'elle représente l'aspect social de la bibliothèque physique. On en reparlera aussi. Je pense que la bibliothèque, c'est plus tellement un endroit où on travaille qu'un endroit où on vit. Et j'en parlerai aussi. On est bien loin du numérique, mais je pense qu'on ne peut pas parler de la bibliothèque numérique sans parler de la bibliothèque en général. C'est pas possible de poser les deux. Il faut qu'on arrive à rejoindre tout ça. Donc une bibliothèque, ça ressemble plutôt à ça de nos jours. Des ordi, on verra après la question des accès. Et des gens qui vivent, en fait. C'est peut-être ça qui est intéressant, je ne m'étais jamais rendu. La bibliothèque est en train de devenir un lieu où on vit, plutôt qu'un lieu où on travaille. Bon, on peut travailler en vivant. En fait, ce qui se passe, c'est que le numérique, le constat qu'on fait nous, c'est que le numérique, il expose complètement la bibliothèque. Le côté, la salle est là, je sais où ils sont et tout, c'est complètement nébulisé. C'est devenu une nébuleuse, et en fait, la nébuleuse, vous la connaissez, c'est la nébuleuse de tous les outils sociaux. Les étudiants, maintenant, ils sont là, en fait. Ils sont aussi dans la bibliothèque, mais même quand ils sont dans la bibliothèque, pour peu qu'ils aient attrapé un ordinateur, ils sont dans cette galaxie-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour une bibliothèque ? C'est quand vous avez vos usagers sous la main, c'est super facile de les servir. Ils sont devant vous, ils veulent un document, vous allez chercher le document, vous le ramenez. Quand ils sont quelque part là-dedans, il faut mettre vos bottes de 7 lieux, il faut travailler votre doigt à celui qui clique, et puis il faut leur courir derrière. Ils sont pas faciles à attraper, ils sont plus faciles à attraper. J'ai l'impression de partir dans tous les sens déjà, j'ai à peine commencé.
J'espère qu'il y a quand même, que vous trouverez quand même une cohérence dans ce que je dis.
L'autre question qu'on se pose, c'est avec quoi ils travaillent. Quand vous étiez à la fac, quand j'y étais, nos outils de travail, c'était du papier et un stylo. Là aussi, pour le bibliothécaire, c'était simple. Il nous apportait des bouquins. Tout était très simple, en fait. Alors maintenant, les étudiants, ils travaillent avec plein de choses, en fait. Et c'est un des problèmes. Et on va tout doucement revenir sur l'expérience du livret, parce que c'est un des outils qu'ils utilisent. Alors, avec quoi ils travaillent maintenant ? Les chiffres que je vous donne, ils viennent c'est l'enquête du Crédoc. Alors, l'enquête mélange les élèves et les étudiants, mais j'ai pris le chiffre global parce que les élèves d'aujourd'hui, c'est les étudiants de demain ou après-demain. Donc, j'essaie toujours de réfléchir, pas sur les gens que j'ai en face de moi à l'instant T, quand je parle à un étudiant, mais sur les gens qui sont derrière, qui vont arriver. Parce qu'il faut qu'on arrive à se projeter, quoi. On ne peut pas travailler sur l'aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur demain. Enfin, non, je ne sais pas trop ce que c'est demain, à part samedi, mais je ne sais pas. Donc, 91% des étudiants, élèves étudiants actuellement, ont accès ou on possède un ordinateur fixe. 39% ont un ordinateur portable. C'est assez frappant quand on rentre dans cet amphi. Alors, la plupart d'entre vous sont encore très très jeunes, y compris les moins jeunes, en fait. Et il y a quand même une forte proportion. On doit être pas loin de la proportion que j'indique là, en termes d'ordinateur portable par rapport au présent. Ça aussi, ils ont des ordinateurs portables de plus en plus dans les BU. Ils ont des netbooks de plus en plus. Il y a eu en 2 ans, visuellement dans une BU, il y a eu une explosion des netbooks qui est très très visible. On oublie le téléphone portable. C'est aussi un outil, et la question que je me pose souvent, moi, c'est comment se fait-il que donc 84% des élèves étudiants, et je pense un peu plus si on prend que la tranche d'étudiants, ont un téléphone portable. Je pense que quasiment tout le monde a un téléphone portable ici. Or, lequel d'entre vous d'ici peut travailler avec sa BU, consulter son compte lecteur à la BU, avoir accès à de la DocEllec depuis son téléphone portable? Personne. Et là, nous, au niveau de la BU, on a raté un sacré public. Donc c'est aussi les choses que je me demande tous les matins. Daniel, comment tu vas faire pour être dans la poche de tous les étudiants? Eh oui, vous imaginez, on doit être bien. Hein. Alors jusque-là, on est sur des outils qu'on connaît tous. On voit apparaître ce que j'appelle du GSM+. Alors l'iPhone, vous connaissez tous. C'est énorme l'iPhone. Mara en parlait, mais en termes de chiffres, il s'est vendu 1,2 million d'iPhone depuis en un an, quoi, en un an et demi. C'est une vente colossale. L'autre que je vous ai mis, qui est un peu moins connu, c'est le pendant libre. C'est un téléphone portable qui tourne sous Android. C'est le système d'exploitation qui est en train de développer Google, une petite entreprise américaine dont vous allez entendre parler. Aucune BU n'est sur ces outils-là. On peut quasiment pas pousser la DocEllec sur ces outils-là. On ne sait pas faire pour l'instant. Pour plein de raisons dont je vais parler après. On ne sait pas faire et on ne peut pas faire techniquement. Ça aussi, c'est un problème. Puis des choses qu'on ne voit pas encore sur le marché mais qui vont arriver, c'est les fameuses tablettes. Alors Mac, il semblerait que Mac prévoit d'en sortir une. Donc ce serait des sortes d'A4, hein, une tablette informatique qui vous permettrait d'aller. On n'est pas sur le livret, là. On est sur on va dire, un écran d'ordinateur autonome sur lequel vous pourriez travailler. Ce qui est sûr, c'est que celui du bas, CrunchPad, va être commercialisé. Donc je ne suis pas en train d'inventer des trucs. Ça existe ou ça va exister très rapidement. Le CrunchPad va être mis en vente là dans les jours qui viennent. Donc on a comme ça tout un ensemble d'outils sur lequel une BU ne peut pas être, à part les ordinateurs. Tous ces autres supports, pour l'instant, on ne peut pas y être. Pas parce qu'on ne veut pas. Enfin, quoique. Je me demande parfois si en fait on a vraiment envie d'y être, mais parce qu'on n'a pas les outils techniques, parce qu'on n'a pas la doc, et les éditeurs ne proposent pas la doc pour pousser ces documents-là sur ces outils-là. Et pour nous, c'est un vrai problème. Je me positionne aussi dans mon discours en tant qu'usager de ce que proposent les éditeurs. J'ai aussi des demandes, moi, par rapport aux éditeurs. Et j'en parlerai tout à la fin. Ce qu'on oublie aussi, c'est le travail de groupe. Un étudiant, ça ne travaille pas seul, en fait. Vous travailliez peut-être seul, moi je travaillais seul, je suis un grand solitaire, en fait. Mais eux, non. C'est des espèces de groupuscules, plus ou moins interconnectés, et plutôt plus que moi. Donc ils travaillent toujours ensemble. Et c'est aussi des éléments qu'il faut prendre en compte dans les plateformes. J'en parlerai aussi plus à la fin de quoi on a besoin, en fait. Et puis, il y a tout ce qu'on ne peut pas imaginer encore, enfin, ce qu'on n'a pas encore imaginé. Je l'ai dit tout à l'heure rapidement, on ne peut pas travailler sur le présent, ce n'est pas possible. Il faut qu'on arrive à essayer d'imaginer vaguement comment ces gamins-là, ce gamin-là, comment il va travailler quand il sera à la fac, quoi. Et comment nous, on va être prêts. Parce que si on attend qu'il soit à la fac pour commencer à réfléchir à comment on va lui rendre les services qu'il demande, le temps qu'on réagisse, il sera déjà parti de la fac. Mais on l'aura raté. Il faut qu'on arrête d'être en retard sur nos usagers. Il faut qu'on les précède. Comme ils courent très très vite, on doit courir très très vite. Et être très très réactif. Qu'est-ce que je sais d'eux encore ? Je suis en train de vous dépeindre, hein, on est toujours dans ce paysage. Alors on parle toujours des digital natives, donc la génération qui est sur les bancs de la fac actuellement et celle qui arrive dans les lycées, c'est des génies informatiques, entre guillemets. À voir. Ils passent beaucoup de temps sur Facebook. Quand je me balade dans la BU, je regarde ce que font les étudiants sur leurs écrans, forcément. Enfin, je ne vais pas dans leur intimité, mais je regarde ce qu'ils font. Ils passent effectivement beaucoup de temps sur Facebook, sur les outils sociaux, etc. Quand vous en attrapez un individu, donc c'est des digital natives, ils sont nés là-dedans et on pense qu'ils se débrouillent complètement avec ça. Et quand vous en attrapez un et que vous creusez un peu, en fait, ils sont très très vite largués. Dès que ça devient un tout petit peu technique, et technique, ça veut dire si par exemple leur firewall les empêche de se connecter au Wi-Fi de la BU, 9 fois sur 10, c'est panique à bord, il n'y a plus personne. Donc, au niveau des BU, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on se demande comment on peut les assister, comment on peut les former, comment on peut être présent pour eux. Ça a des conséquences pour nous. Le fait que les digital natives, ils sont nés là-dedans, mais ils ne maîtrisent pas nécessairement complètement le truc. En tout cas, un peu plus que nous quand même. Un autre truc avec les étudiants, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le G de Google, vous savez, le monstre qui va tous nous bouffer. En fait, un étudiant, pour un étudiant, moi j'ai souvent l'impression que la bibliothèque, pour lui, ça n'existe pas. La bibliothèque d'un étudiant, c'est Google. Alors après, on peut taiser des heures là-dessus, c'est pas bien, c'est des Américains, ils sentent mauvais, ce qu'on veut. C'est un fait, quoi. Je ne sais plus sur le référencement hier qui nous disait que Google c'est 60-70% de part de marché sur les moteurs de recherche de tête. Voilà, c'est un fait. Donc au niveau de nous, il faut qu'on se rende compte de ça. Un étudiant, il réfléchit suivant le prisme Google. Quand nous, on arrive avec nos outils, nos bases de données incompréhensibles, et je vais revenir là-dessus aussi, nos opaques qui feraient s'évanouir n'importe quel graphiste. Non, c'est vrai, quoi. Allez voir un opaque. Quoi. On fait clairement pas le poids, quoi. Parce que, le digital natives, c'est plutôt un digital Google, quoi. Il est né avec Google, il réfléchit en termes de Google.
What is an opaque?
Oui.
Ouais. Qu'est-ce qu'un opaque? Attends,
moi,
il y a des gens qui savent pas ce que c'est.
Un opaque, c'est... Ben voilà déjà. Je jargonne. L'opaque, c'est le catalogue de la bibliothèque universitaire. Enfin, c'est le catalogue de la bibliothèque que vous voyez à l'écran. C'est online, public, je sais plus. Voilà, c'est dire. Access catalogue, je sais pas quoi. Bon.
Donc
c'est la partie visible du catalogue de la bibliothèque universitaire. Et les opaques, donc la partie visible du catalogue d'une bibliothèque, 99 fois sur 100, c'est une bouse infâme. Je peux le dire, je participe au mien. Incompréhensible. À part pour quelqu'un qui est bibliothécaire. Autrement dit, c'est incompréhensible pour 99% de la population mondiale, heureusement pour nous. En face, on a quoi? Google. Google, vous prenez un enfant de 4 ans, enfin 4 ans, on ne sait pas écrire. De 6 ans, vous le mettez devant Google, en 3 minutes, il a compris. Le jour où vous me trouvez, même quelqu'un de 18-20 ans qui comprend votre opaque en 3 minutes, c'est un bibliothécaire, à mon avis. Voilà, il est habité. Il faut appeler un exorciste pour le... Donc voilà. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. D'ailleurs, quand on attrape un étudiant et qu'on arrive par des moyens que je ne peux pas vous révéler ici, à le ramener dans notre bureau et à lui montrer, tu as vu toute la documentation électronique qu'on a, en général, sa réaction c'est ah, c'est super! Ouais, c'est super! Mais pourquoi tu ne l'utilises pas? Parce que je vais chercher dans Google. Ah, alors on peut, on, peut se dire, ah, c'est dommage. On peut aussi se demander comment on va aller dans Google, en fait. Je crois assez à la technique de la puce. La puce, elle est, d'accord, elle est accrochée à un gros chien. Au niveau du chien, c'est juste une petite puce, mais au niveau de la puce, elle vit super bien, quoi. Moi, je pense qu'on peut être des puces accrochées sur Google, hein. Comment ? Oui, il faut se mettre des coups de patte. Donc voilà, on a un problème d'étudiants qui utilisent plein d'outils, et nous, on a des outils uniques. On a un problème de visibilité. Et puis, on a un autre problème par rapport aux étudiants. Ça vaut pour la bibliothèque physique et la bibliothèque numérique. Ces jeunes gens, pour ne pas dire ces petits cons, sont super exigeants. Et ils ont raison d'être super exigeants. On est un service public, donc ils doivent être exigeants. Et nous, on doit être à la hauteur de leur exigence. Alors, qu'est-ce que ça veut un usager maintenant, un étudiant maintenant ? Ça veut les choses tout de suite. C'est clair. Il vous demande un truc, moi je le constate tous les jours. Il vous demande un article, un document. Quand vous lui dites, ah oui, vous l'aidez à chercher, vous êtes un bureau de renseignement, je cherche tel article. Alors vous cherchez, ah oui, on l'a, super, je peux l'avoir. Il faut faire la demande sur le petit papier. Vous allez voir mon collègue magasinier qui fait la rente tous les demi-heures et il vous le rapportera. S'il le trouve, votre étudiant, il se barre. Quoi. Vous ne le voyez plus. Il a raison. Ils sont dans le tout de suite. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans une économie de la rareté, vous pouvez faire attendre l'étudiant. Puisqu'il est obligé de passer par vous. Donc il attend. Quand vous êtes dans l'économie où on est actuellement de l'abondance de documentation électronique de tous les côtés, et de docs de tous les côtés, il ne se casse pas la menette. Quoi. Il sait que s'il ne trouve pas l'article X, ben, il trouvera l'article Y. Et s'il ne trouve pas l'article Y, il trouvera le Z. Donc c'est tout de suite. Ou bien vous l'avez perdu. C'est tout le temps. Les horaires d'une bibliothèque universitaire, même celle comme celle d'Angers, où on est très très ouvert, on est ouvert très longtemps, beaucoup dans l'année, on doit être une des BU qui sont les plus ouvertes, on reste quand même sur des horaires, on va dire, pas de bureau, mais enfin, on est, là cette année, on est sur du 8h30, 20h, et certains soirs, on va monter à 22h. Bon, ben, il y a des étudiants, ils commencent à travailler à 22h. Et moi, je dois leur rendre un service qui est, je m'en fous qu'ils travaillent, à quelle heure ils travaillent, je m'en fous qu'ils travaillent le dimanche, d'aller à la messe. C'est pas mon problème. Moi, je dois lui rendre un service. Il veut de la doc. Il faut que je lui apporte cette doc. Alors, la doc Alex, c'est une façon de répondre à ça. Mais eux, ils veulent de la... Enfin, potentiellement, c'est tout de suite et tout le temps. Ça se voit sur les logs, hein, des accès à distance. Ça travaille tout le temps, en fait. Il veut que ce soit facile. Il n'y a qu'un bouton, là, en fait. On revient à l'opaque de tout à l'heure. On revient aux bases de données de... qui nous permettent de travailler sur la doc Alec. On revient à certaines plateformes de revues électroniques. C'est souvent beaucoup trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. C'est fait pour des bibliothécaires. Et les étudiants ne sont pas des bibliothécaires. Eux, ils veulent des trucs simples. Google, c'est simple. C'est pour ça que ça marche. Tous les trucs qui marchent, quand vous regardez, c'est parce que c'est simple. L'étudiant, il ne veut pas réfléchir. Enfin, il veut bien réfléchir, mais pas pour trouver la doc. Il veut bien réfléchir sur la doc. Il ne veut pas se demander pendant un quart d'heure comment marche cette opaque et où est-ce que je dois cliquer pour avoir ma réponse, ce qui est trop souvent le cas. Alors, voilà un petit peu le panorama. Voilà un peu le panorama. On est face à ce paysage, on va dire, dans lequel on essaye de survivre. En fait, les bibliothèques, à ce moment, on est en mode survie on. On essaye de survivre. C'est dommage, on a plein d'atouts, mais on ne les voit pas. Et donc là-dedans, je vais vous parler de l'expérience des livrelles, parce qu'elle est révélatrice de plein de choses par rapport à la DocEllec, par rapport à comment on peut utiliser ces supports de lecture, quels sont leurs défauts, etc. Donc je vais vous parler de la livrelle expérience. C'est l'expérience qu'on mène depuis à peu près un an maintenant. On a commencé à faire une enquête sur l'expérience. Mon adjoint Nicolas Larcon, qui est spécialisé sur les enquêtes, va faire une vraie enquête. Moi, ce que je vous livre là, c'est des impressions. D'accord ? Donc, il n'y a pas de chiffres, etc. C'est des impressions que j'ai essayé d'extraire de cette expérience. Il y aura des choses plus carrées. Nicolas Larcon, quelqu'un qui travaille très proprement et de façon très carrée, heureusement pour moi. Donc, lui, il fait des choses carrées. Donc, il est en train de faire ça. Il publiera ça. Mais pour l'instant, moi, c'est des impressions. Alors, en fait, on a acheté au départ 10 e-books avec le Denis à nous. Et puis après, on s'est accoquiné avec Sony, qui nous a prêté 10 machines. Donc notre parc de livrelles, c'est 20 machines. Pourquoi on a essayé ça ? On s'est dit, Typiquement, voilà un outil nouveau qui arrive dans le paysage. Sans doute, l'intuition, c'est sans doute que cet outil-là va se répandre. S'il se répand dans la population, comment nous, au niveau de la bibliothèque, on peut s'en servir? C'est quoi notre valeur ajoutée? Comment on va utiliser cet outil-là pour continuer à exister et à rendre des services? Donc on a acheté 10 machines, on en a reçu 20, donc on en a, on a acheté 10, on en a reçu 10, on en a 20 en tout, et on les a mis en prêt. C'est-à-dire, on va les mettre en prêt auprès des étudiants pour voir ce qui se passe. Alors évidemment, réflexe de bibliothécaire, d'Adoc et Lec, il n'y en a pas en fait pour sur ces outils-là. Je ne peux pas. Un de nos gros fournisseurs, c'est Elsevier, par exemple, qui fournit de la doc électronique, des revues, etc. J'ai pas de moyen simple de prendre la doc électronique Elsevier de recherche pour la mettre sur ces livrets-là. Donc on s'est dit, on va faire autrement, on va mettre des grands classiques, la réaction de bibliothécaire. Zola, c'est super. Ils n'ont sûrement pas lu Zola, on va leur faire lire Zola. Ça coûte rien, puisque c'est gratuit, on en trouve partout sur Internet. Donc on va mettre des classiques. Le problème des classiques, c'est que c'est chiant. Non, mais ça va, les classiques, quoi. Donc, on s'est accoquiné aussi avec Publinet, qui est une coopérative d'écrivains qui publie de la littérature contemporaine qui n'a pas été publiée en papier. On s'est dit, tant qu'à prêter des outils nouveaux, autant mettre dessus de la littérature nouvelle, hein, c'est le double effet qui se coule, quoi. On va prêter des machines que les étudiants ne connaissent pas avec de la littérature qu'ils ne connaissent pas, et on va voir ce qui se passe. Donc on a travaillé avec Publinet qui nous a donné en gros 90 textes littéraires de longueur multiples et variées, du court, du long, du théâtre, des trucs complètement expérimentaux. Et donc on prête tout ça aux étudiants, et on voit ce qui se passe. On leur prête la machine, ils empruntent ça comme un livre. Techniquement, ils empruntent ça comme un livre, sauf que dans le livre, ils ont 90 textes, on leur prête. Et on voit ce qui se passe au retour, on discute un peu avec eux. Alors, la prise en main, c'est-à-dire l'ergonomie des machines, ça ne leur pose aucun problème. Là, pour le coup, c'était des digital natives. Vous leur donnez une machine qu'ils n'ont jamais vue, qu'ils ne connaissent pas, et qui, franchement, en tout cas, pour le C-Book, le Sony, moi, je le trouvais beaucoup plus ergonomique. Le C-Book, je trouvais que l'ergonomie était moyenne, mais c'est un avis tout personnel. J'ai pas vu d'étudiants à qui ça posait problème. Il bidouille un peu, il trouve. De toute façon, un étudiant qui joue avec ce genre, enfin, il y a beaucoup de joueurs chez les étudiants. Quand on maîtrise ce genre de joypad, franchement, on maîtrise à peu près tout, quoi. Donc pour eux, ça ne leur pose pas de problème. Qu'est-ce qu'on a constaté? Le niveau des emprunts de ces machines-là, c'est très fluctuant, et en particulier, ça se casse la gueule dès qu'on ne pousse plus l'outil. C'est-à-dire, dès que moi, je ne suis pas le lancement de l'opération de prêt, je me suis mis dans le hall de la BU et j'ai vendu ma soupe. Là, ça marche très bien. Quand on voit un étudiant et qu'on lui parle un peu et qu'on travaille au corps, il emprunte. Mais on lui dit, je sais où ton petit frère va à l'école, donc si tu empruntes pas la machine, il va y avoir des écoles. Non, dès que vous ne les travaillez pas au corps, les emprunts s'effondrent. C'est pas les outils-là, ces outils-là, pour eux, c'est pas naturel d'emprunter ce genre d'outils. D'accord ? Donc, il faut qu'on soutienne l'offre, j'allais dire. Il y a l'effet de l'inconnu. Là, vous êtes tous en train de vous demander qu'est-ce qu'il y a à l'écran. Alors, dans 3 minutes, soit vous allez dire « je sais pas ce que c'est » et je laisse tomber, soit, mais il y en a très peu, ils vont vraiment chercher. Ne cherchez pas, c'est rien. Cette diapo est intéressante parce que c'est exactement ce qui se passe avec un livret. Quand vous donnez un livret à un étudiant, c'est tellement nouveau que 9 fois sur 10, il va laisser tomber, en fait. Ça sort complètement de ses outils. Alors, soit il est un peu geek, il a envie de comprendre, et il va chercher à comprendre, et il va trouver. Soit c'est tellement nouveau qu'il joue un peu, il le montre à sa mémé, t'as vu, ce qu'il y a à la BU, c'est super. Et puis il pose le truc, c'est peut-être ce qui s'est passé chez Marin, et puis il pose le truc, il ne se l'approprie pas, parce que c'est tellement en dehors de ses habitudes de travail et de ses outils. Ah mais c'est pas un jugement de valeur, hein. Non, c'est une tentative d'explication. C'est-à-dire que c'est tellement pas dans votre paysage que si vous n'êtes pas un peu geek, bah vous laissez tomber, quoi. Mais c'est compréhensible, hein.
C'est la première fois qu'on me dit « je suis pas geek hein. ».
Pas bébé, peut-être.
Ouais. Il y a l'effet papier. Ah, et les étudiants étaient avant, il y en a un paquet qui vous disent des trucs de vieux, c'était mieux le papier, quoi. Voilà. Ouais, les bras m'en tombent, mais je vous assure que ça arrive, quoi. Et le gars qui vous dit ça, il y a 10 minutes, il était sur Facebook, il a les doigts tout enflés à force de ça. Ah ouais, mais le papier, c'est mieux. Voilà, c'est un constat. On leur donne des machines comme ça, ils vous disent le papier, c'est mieux. Non, là, je les soupçonne d'être de mauvaise foi. L'effet à la lampe, ça, c'est un vrai effet. Vous leur donnez un livret et ils se retrouvent en fait avec 10 bouquins d'un coup. C'est un peu comme si l'étudiant, dans la BU physique, vous lui donniez un cajot avec 10 livres et rien d'autre. Comme c'est de la littérature contemporaine, dans le cas de Cubinet, mais ça vaut pour n'importe quel cajot. Il se retrouve devant tellement de documents qu'il ne sait pas quoi en faire. Donc il est là, comme sur la photo, c'est bien. Mais quand il s'agit d'aller en choisir un des petits ronds, là, je ne sais pas ce que c'est, il ne choisit pas, donc il bricole un peu et puis il laisse tomber. Quoi. Donc il y a un effet de masse. Ça nous a appris un truc, c'est qu'il ne faut pas leur en donner trop. En fait. L'effet dinosaure du futur, c'est un truc assez paradoxal, c'est vous leur prêtez une machine qui est à la pointe du progrès, et en même temps vous leur prêtez un truc dont vous savez pertinemment que techniquement c'est complètement dépassé. Parce que 3 jours après, en particulier sur des outils comme ça, le livret, 3 jours après, il y a une autre machine qui sort qui est un petit peu mieux. Donc on est pile sur la pointe du truc. Au moment où on leur prête, on sait qu'on leur prête déjà un truc qui est un dinosaure. Et ça, ils vous le mettent dans les dents. Le premier truc que fait un étudiant qui est dans la livrée, il tape sur l'écran. Parce qu'il a l'iPhone normal, quoi. Il dit, c'est pas tactile. Excuse-moi. Bon, alors il dit, je le prends quand même. Mais bon. Alors maintenant sur le marché, on voit apparaître du tactile, des choses comme ça, heureusement. Mais il y a cet effet très bizarre de prêter une machine. Donc vous savez qu'elle est à la pointe du progrès et en même temps qu'elle est complètement larguée. Quoi. Bon, faut s'y faire, hein. On est tous des dinosaures futurs. Il y a l'effet « je trouve pas ce que je veux ». En fait, ça c'est... Alors là, pour le coup, on leur a prêté de la littérature, mais très souvent, on a entendu aussi « ah, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir des manuels ». Quand c'était des chercheurs, c'est « ah oui, mais moi je voudrais avoir des articles de revues, etc. » Ah. Et là, tous les éditeurs qui sont dans la salle, ils disent « tiens, il est en train de me parler. » Et oui, il ne trouve pas ce qu'il veut, mais c'est normal, parce qu'on n'a pas ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui livrer ce qu'il veut, c'est-à-dire un manuel ou de la doc de recherche, sur le livret à l'instant T. En tout cas, pas de façon simple. On a essayé, on a pris des PDF d'articles de revues sur Elsevier, etc. On a pris des PDF A4, on a essayé de reformater pour les mettre sur un écran de livret, c'est pas très grand un écran de livret. Ça se passe plus ou moins bien. Parce que le PDF n'est pas vraiment fait pour être. Enfin, c'était formaté en A4, on est sur du A5, donc le livret va essayer de zoomer. On se retrouve avec des trucs un peu bizarres. Et là, on est en plein dans la thématique de la semaine, c'est la problématique de format, etc. Comment je fais pour avoir un document numérique qu'après je peux ventiler sur toutes les surfaces? On est en plein là-dedans. Là, on a eu un peu de mal. Ils avaient raison, je trouve pas ce que je veux. Oui. Parce que. Ils lisent entre guillemets la littérature contemporaine. Bon, globalement, ils sont là pour bosser quand même et on n'a rien à leur offrir. La vraie leçon, déjà qu'on retire maintenant, c'est qu'on ne peut pas les laisser tout seuls. Oh, pardon.
Excuse-moi, juste une question. Vous n'avez pas fait d'essais avec des livres que vous avez achetés, des essais, genre, je ne sais pas, aujourd'hui on en trouve un peu au format complet. Vous
n'avez pas pour l'instant.
Mais ça pourrait être une autre étape. Pour l'instant, on voit vraiment ce qui se passe sur la littérature. La leçon de tout ça, ça veut dire qu'il reste encore du travail pour les bibliothécaires. On peut arrêter le truc des bibliothécaires pendant des années, c'était des fonds. Il nous faut des fonds, il nous faut des milliers de documents, ça nous rassure, en laissant derrière nous comme les notaires, vous savez, ils mettent le dos des livres. Nous, on met des vrais livres et ça nous rassure. Et on passe beaucoup de temps à gérer ça. Je pense que c'est mort, ça. Par contre, je pense qu'on a une place à prendre sur la médiation. Leur expliquer. Aller dans une offre de 90 romans de littérature contemporaine, en sortir que 3. Et les pousser sur le site de la BU, les pousser sur des libraires, leur dire « ça c'est intéressant parce que, ça c'est intéressant parce que ». Faire de la médiation. Pour éviter cet effet d'avalanche, faire le tri pour eux, aller chercher à leur place, et des moteurs de recherche humains en fait. C'est aussi ça pour moi la médiation. Donc la grande leçon sur le livret, plus à côté de tous les problèmes de format, etc. Et la bonne nouvelle pour les bibliothécaires, s'il y en a dans la salle, c'est qu'on peut encore vivre en faisant de la médiation. À quoi sert une bibliothèque? En fait, Ce qu'il y a là derrière, c'est cette question-là. Je ne sais pas où j'en suis au niveau de l'oreille.
Tout va bien.
Ça va. Il me reste combien de temps ?
On verra.
Ça, c'est la vengeance de tout à l'heure. Ça. Non, je pense que un quart d'heure, 20 minutes. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Alors la question, c'est à quoi ça sert une bibliothèque ? La doc, il y en a un peu partout. Les étudiants, leur premier réflexe, c'est d'aller sur Google, de chercher sur le net. La doc, il y en a un peu partout. Donc finalement, il y a des matins, je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas. Je me lève et je me dis, à quoi ça sert une bibliothèque, quoi, maintenant ? Puisque c'est plus cet espace comme la bibliothèque du Congrès, c'est fini, ça. Ça gère du flux. En bibliothèque numérique, on gère du flux. On gère pas un livre, on gère pas 100 livres. On gère vraiment des tuyaux. C'est ça qu'on fait. Quand j'achète de la documentation électronique, j'achète pas une revue. Quand je travaille avec Elsevier, j'achète 10 000 revues d'un coup. J'achète des gros tuyaux. Que j'essaie d'orienter plutôt vers les étudiants, sinon ça arrose à côté, ça sert à rien. On est vraiment dans la gestion de flux, et ça veut dire que la granularité sur laquelle on travaille, c'est plus celle du document. C'est du flux. C'est des gros tuyaux. On valide des sources de contenu. Paradoxalement, pour un étudiant, la bibliothèque a encore une valeur. C'est nous qui mettons... Alors, je viens de Lorraine, donc on parle un peu... Enfin, chez moi, on parle un patois allemand. On parle de Stempel. Stempel, c'est le tampon qu'on met sur le passeport. On valide la source de contenu. Le fait qu'elle soit la bibliothèque proposée sur notre site web, proposée dans nos outils, proposée sur nos plateformes, ça lui donne une valeur, une autorité. On est encore, je ne sais pas pour combien de temps, avant que Google nous remplace, mais on a encore des validateurs de contenu. Enfin, de sources en tout cas. On les aiguille dans cet énorme bazar, dans ces flux qui leur tombent de tous les côtés. Notre boulot, c'est aussi de leur dire, tiens, là, il peut y avoir des données intéressantes. On revient sur la médiation, en fait. Sauf qu'on est à une échelle beaucoup plus large. Là, il peut y avoir des données intéressantes pour toi. Là, il y a peut-être des données intéressantes. Donc, on aiguille, nous, des flux, et les étudiants de l'autre côté, on essaie de les aiguiller vers ces flux. Tu as du travail à la SNCF, en fait. Une fonction qu'on oublie, je vous rappelle la photo de tout à l'heure, on voyait cette bibliothèque à moitié vide, rouge. La bibliothèque, je crois que ça devient aussi un lieu d'accueil, en fait. Puisqu'ils travaillent de plus en plus à l'extérieur, peut-être qu'on peut faire de la bibliothèque un lieu de vie. Donc il faut qu'on leur ouvre les portes. Et un étudiant... Moi, je comprends pas pourquoi on peut pas manger dans une bibliothèque, en fait. Je comprends pas. S'il y a une tâche sur un livre, ben, on rachète un livre. C'est pas grave, quoi. Le budget d'acquisition d'une BU qu'on mangeait, c'est 1 million d'euros. Pour vous donner une idée, bien, on a de la marge. Hein. S'il y a une petite miette dans un coin, c'est pas grave. Il faut arrêter de sacraliser. Ce qu'on leur prête, c'est des livres de poche, c'est des bouquins de base. Quoi. S'il y a une miette, ils n'auront pas salopé une Bible de Gutenberg. Quoi, puis même. Donc il faut leur donner des accueils. Il faut les accueillir, leur ouvrir les portes. Ils ont le droit d'être chez nous. Il faut leur proposer du confort aussi. Ça, c'est bien beau d'être accueilli, mais... Enfin, je sais pas, moi, quand je travaille chez moi, je suis vachement mieux installé dans une bibliothèque. Et moi, ça me choque. Parce que quand vous voyez le temps qu'un étudiant passe dans une bibliothèque, même s'il est en train de bosser sur Facebook, en général, ils ne sont pas bien installés. Et c'est pas normal, c'est un lieu de vie. Vous, chez vous, vous êtes bien installé. Donc, quand ils sont à la bibliothèque, ils doivent être bien installés. Bon, il faut leur offrir des accès. Sur la photo tout à l'heure, on voyait plein d'ordinateurs. Les chiffres d'équipement des étudiants sont importants. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont des machines, qui ont accès à des machines, etc. Et du coup, on oublie tous ceux qui n'ont pas accès à des machines. Il y a plein d'étudiants qui n'ont pas accès à des machines. Donc une bibliothèque, ça peut être aussi un net café, quoi. C'est-à-dire, je rentre, je me contrefous de tes bouquins, mais tu m'offres une machine, éventuellement un café, ma foi, pourquoi pas. Je suis bien installé, parce que je vais rester assis longtemps. Je suis dans un environnement agréable. Et tu m'offres des accès. Le net, il est ouvert. Quand j'entends des bibliothèques où pour entrer sur Internet, il faut 45 000 mots de passe, il faut avoir donné ses empreintes digitales, tout votre arbre généalogique, faire une prise de sang, une analyse d'urine, tout ça pour aller sur Facebook, stop quoi. Enfin, non mais vous pouvez, je sais que ça existe. Enfin pas à ce point-là, mais ou les bibliothèques universitaires où on fait une liste de sites autorisés. Une liste de sites autorisés à des étudiants. D'une, c'est des adultes. Donc il faut arrêter de prendre les jeunes pour des cons, quoi. Donc, vous avez été jeune aussi, enfin, vous êtes toujours jeune, et vous n'êtes pas con, quoi. Enfin, il faut arrêter ce truc de « parce qu'il est jeune, il est con », il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il faut arrêter de prendre les jeunes pour des cons, et les gens pour des cons. Donc il faut que les accès soient ouverts et libres, ils vont où ils veulent. Et on ne peut pas préjuger, à partir de nos habitudes de travail, de ce que vont être les leurs, et mettre des barrières, parce qu'on considère qu'être sur Facebook, c'est pas travailler. Si, on peut aussi travailler sur Facebook. Donc un étudiant qui va aller sur Facebook, il doit pouvoir aller sur Facebook ou sur ce qu'il veut, ou sur YouTube, parce qu'on peut aussi travailler sur YouTube. Pour ça, il faut offrir des accès, donc des ordi ouverts. En fait, il faut leur donner les clés de tout. Et il ne va rien se passer. Une des grosses craintes qu'on a à la bibliothèque, c'est que si on ouvre, qu'est-ce qui va se passer ? Ben rien. Ils vont être bien chez eux et puis ils continueront à venir nous voir. En fait, j'aime bien cette image, la bibliothèque, c'est un pont. Vous pouvez parfaitement traverser sans le pont. On nage, et on arrive de l'autre côté. Sauf que c'est beaucoup plus confortable avec un pont, parce que de l'autre côté, vous êtes sec. Et au moins, vous n'êtes pas noyé. Le fleuve, c'est les données, c'est l'information, etc. Notre boulot, c'est de les aider à traverser. Ils pourraient y aller comme ça à l'arrache, et il y en a qui vont à l'arrache. Si on peut les aider à arriver de l'autre côté, à peu près en bon état, sans qu'il y ait trop de dégâts, c'est pas mal. Moi, je pense souvent à tous les étudiants qu'on perd, en fait. Vous vous rappelez des chiffres, hein, 44% en L, et puis ça se restreint vachement. Et on travaille trop sur ceux d'en haut, ceux qui sont sortis du truc, quoi. Ceux que la sélection naturelle de la bibliothèque... ceux qui ont réussi à passer la sélection naturelle à la bibliothèque de la fac. On oublie tous les autres qu'on a perdu en route. Et peut-être que si on leur avait donné tous ces éléments-là, ils seraient toujours là, quoi. Le but, c'est pas... Moi, ça me gêne un peu de me dire « Waouh, on en a sauvé 10%. » Les 90%, ils sont où, quoi ? Enfin, ça, c'est mon problème personnel. Alors, de quoi on a besoin ? Qu'est-ce qu'une BU a besoin aujourd'hui ? Si vous êtes un éditeur, voilà ce qu'on a besoin. Il faut de la doc en ligne. Votre doc, elle doit être en ligne. Si elle n'y est pas, dans le paysage d'un étudiant, vous n'existez pas. Je suis désolé de vous dire ça, mais une revue papier, ça n'existe pas pour un étudiant. Quoi. Vraiment. Ça ne l'intéresse pas, quoi, à part l'équipe. Ça, ce qui marche très très bien. Une revue papier, ça ne l'intéresse pas. Quoi. Vraiment, ça ne l'intéresse pas. Donc si votre revue n'est pas en ligne, elle n'est pas dans le paysage. C'est une mauvaise nouvelle, c'est la mauvaise nouvelle du vendredi. Après, il suffit de la mettre en ligne, hein, vous avez des moyens de mettre votre revue en ligne. Mais vraiment, hein, c'est quelque chose que je constate tous les jours. Il faut que ce soit human friendly, c'est-à-dire il faut qu'un humain normalement constitué comprenne le truc. Donc il faut que l'interface soit claire, il faut qu'il puisse l'utiliser sans avoir fait 15 ans d'informatique. Il faut que tout ça coule de source, quoi. Pas de code, pas de trucs compliqués, pas de manip compliqué. Ça doit être fait pour des humains. Multiformat. Vos documents ne doivent pas être faits que pour être lus sur le modèle, je sais pas combien, M6300 de chez Dell. Ah non, ça ne marche pas sur le 6400. Vous ne pouvez pas tabler sur un format. Un bouquin, vous pouvez le faire que il est fait comme ça, ok. Pas un document numérique. Il doit pouvoir être lu sur tous les types d'outils de lecture. Vraiment, donc ça veut dire qu'en termes de format, etc., vous l'avez prévu dès le départ, pour qu'après il puisse être ventilé partout. Il faut que tout ça soit interconnecté. On en a parlé hier avec les blogs, les rétroliens, etc. Il faut que vos documents soient sur des plateformes qui, elles-mêmes, soient interconnectées. Si vous n'êtes pas interconnecté, vous êtes sur le net, donc vous êtes sur le paysage, mais vous commencez à être un peu moins visible. Donc il faut que ce soit interconnecté. Il faut des fonctions sociales. Il faut que la personne qui utilise votre document puisse interagir avec les autres usagers, les autres lecteurs, l'auteur, etc. Ça doit être des trucs sociaux, parce qu'un étudiant, c'est un être social, c'est des petits animaux sociaux. Donc il faut leur donner des outils sociaux. Et si ça peut être gratuit, la bibliothèque universitaire vous remercie. Ou pas cher, enfin, Non, on a des budgets quand même assez conséquents, mais le commerce électronique est dans une espèce d'inflation des coûts qui va poser problème à un moment ou à un autre, et plutôt rapidement que dans 10 ans. On va commencer à être en tension à un moment, donc on va devoir faire des choix.
Pourtant, souvent sur les portails des BU, l'offre gratuite, elle est moins mise en valeur que l'offre payante.
Oui, on a un problème aussi avec ça en BU. On préfère payer. Si vous saviez tous les problèmes qu'on a en bibliothèque. C'est très compliqué pour la bibliothèque en général. Enfin, tout ce que je vous dis depuis le début, c'est des choses. Enfin, c'est mon avis personnel. Les bibliothèques sont en train de faire un virage dont tout le monde ne s'est pas encore aperçu qu'il était en train de se passer. Premier problème, c'est ça. Je pense que dans plein de bibliothèques, on ne s'aperçoit pas de ce qui se passe par rapport au numérique. Donc on continue sur, comme les gros paquebots, quoi. Ils continuent sur leur air, pas de problème, tout va bien. Sauf que non, tout va pas bien. Donc je pense qu'il y a plein d'endroits où on ne s'est pas aperçu du virage. Et après le virage, il faut arriver à le prendre. Donc il faut arriver à changer de direction, et on a beaucoup de mal. Parce que ça rompt avec plein de choses, plein de pratiques, dans les représentations, dans les façons de travailler. Quand vous passez de ce modèle bibliothèque du congrès, quand vous passez de ça à Facebook, c'est dur, hein, et ça se fait dans un temps très court. Donc je pense que voilà, notre gros problème, c'est d'arriver à prendre le virage sans se prendre le mur. Mais on va y arriver. Donc voilà, vos documents, ils doivent être en ligne, multiformats, interconnectés, sociaux, faits pour des humains, gratuits si possible, mais sinon on payera, vous inquiétez pas. C'est à peu près de ça dont on a besoin. On demande, hein, restez rien à demander. C'est aussi tout ce que j'avais à dire. Désolé, j'aime beaucoup le C'est tout, parce que vous dites, bon, il nous a fait lever à 9h, enfin 8h, on est là à 9h, on nous racontait ça, c'est tout. Bah, pour l'instant, ouais, c'est tout. J'ai oublié de sourcer, en fait, toutes les images viennent de Flickr. Et à chaque fois, donc tout ça va être mis en ligne. À chaque fois que vous cliquez sur l'image, vous arrivez sur la page Flickr où l'image a été mise à disposition. Voilà, parce qu'il faut toujours citer ses sources.
Alors, merci beaucoup. On va prendre au moins 10 minutes pour des réactions, puisque tu nous as provoqué, donc on va pouvoir réagir. Il y a juste une ou deux anecdotes avant de.